Ah oui, mon nom c'est Ulrich Stöckel.
D'accord.
J'ai deux petites questions. La première, c'est simple. La correspondance est faite dans un sens, je crois, en allemand, et dans l'autre sens, ça c'est une question. Et l'autre question, c'est que quel est l'intérêt des cantors de parler et de communiquer avec des théologiens et des occultistes? Il y a un intérêt de contenu ou seulement formalistique? Parce qu'il a exprimé les symboles qu'il a utilisés pour exprimer les différents infinités. C'est de l'hébreu, c'est des lettres hébreux. Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose plus de contenu, plus substantiel derrière ces relations, et quel est le contenu de ces relations?
Avec les catholiques qui sont, d'après la correspondance, qui sont tous des intellectuels aussi, puisqu'ils sont enseignants dans les facultés catholiques, je pense qu'il est intéressé par le débat sur les rapports entre science et foi qui s'installe en particulier en France, avec justement la liberté qui dure une dizaine d'années et qui est vers la fin très encadrée, la liberté qui est accordée aux facultés catholiques. L'enseignement est libre, les universités catholiques fleurissent. Elles se créent à Paris, à Lille, un peu partout. Et le débat, notamment la plus grande d'entre elles, à Paris, est extrêmement vif sur la science. Quelle science faut-il proposer dans ces facultés? Et alors là, il y a un débat. Est-ce que c'est la science apologétique, c'est-à-dire tout vient de Dieu et même les théorèmes mathématiques viennent de Dieu, ou est-ce qu'il y a des avancées comme la théorie, le transformisme, la théorie de l'évolution, est-ce que ça doit faire partie de l'enseignement catholique? Et donc le débat est très très vif entre catholiques extrêmement conservateurs, qui ne sont pas forcément les enseignants de ces... Par exemple, Monseigneur Dulst est, sur le plan scientifique, d'un progressisme invraisemblable. C'est-à-dire qu'il introduit des enseignants. L'abbé Loisy va enseigner la théorie de l'évolution et les découvertes, tout ce qui touche à ces découvertes de squelettes d'hommes, d'ossements et tout ça, ça commence à entrer, c'est-à-dire que l'homme est beaucoup plus ancien que ce que dit la Bible et tout ça, donc remise en cause, voilà, remise en cause et tout ça se termine par l'interdiction, par une encyclique papale, hein, et donc l'abbé Loisy est viré. Malgré les efforts d'Ulst, il est viré de la faculté catholique. Il finira d'ailleurs au Collège de France, parce que la Troisième République s'est récupérée. Bon, donc ce débat, science et foi, contradiction ou harmonie, ça passionne Cantor. Et c'est une question que je me suis posée, pourquoi est-ce que c'est en France qu'il vient chercher des aliments? C'est une hypothèse que je fais, peut-être que qui m'a été suggérée aussi par un Allemand qui a fait une thèse sur Cantor et les cardinaux. Le jeu de mots, c'est les cardinaux, c'est les prélats, mais c'est aussi les cardinaux, les nombres cardinaux. Je lui avais posé cette question, il m'a dit, mais parce que le débat en Allemagne avec l'Église luthérienne n'avait pas ce niveau de questions et d'interrogations. Donc c'était parce que le pape Léon XIII avait soulevé un peu la chape de plomb qui pesait sur les activités scientifiques, et donc ça discutait à la Curie romaine, on créait des universités catholique en France, et Cantor plonge.
Là, c'est, ça, c'est compréhensible.
Voilà, moi c'est comme ça. Voilà. Ah, ça, c'était beaucoup plus difficile à comprendre pourquoi Cantor s'intéressait à toutes les sociétés secrètes. Il s'intéresse beaucoup à la franc-maçonnerie aussi. Kabbale, société, tout ce qui est secret, occulte, caché, visiblement, il adore ça. Pourquoi ? Il y a aussi un contexte de l'époque qui fait que beaucoup d'activités scientifiques, beaucoup de résultats scientifiques ne sont pas encore interprétés. On a les rayons X, par exemple, et l'interprétation n'est pas donnée. Et donc, l'idée qu'il y a des choses un peu magiques, un peu mystérieuses, des flux, des actions à distance... Les médiums font un tabac à l'époque. Action à distance du médium. Alors, est-ce que... Là, il y a un engouement, y compris chez des scientifiques, y compris Marie Curie et Pierre Curie, qui ont assisté à des séances de médiums, qui ont regardé et fait tourner des tables en se demandant qu'est-ce que c'est que cette énergie qui passe, de quelle nature, voilà. Donc, c'est, Cantor n'est pas seul. Il est dans un contexte où, en physique, les physiciens allemands, je crois à Leipzig, la société des physiciens allemands, fait entrer un médium dans cette société savante. Il y a des gens qui s'intéressent à un monde transcendantal. Il y a des savants anglais de tout premier plan qui croient à un monde transcendantal. Enfin, j'ai trouvé des exemples qui nous paraissent rétrospectivement ahurissants. Et ils font des expériences très précises et très, très très savantes sur les planètes, et puis ils ont des interprétations. Bon, donc Cantor nage dans cette soupe, comme on dirait, et comme dirait Joël, et lui, il lit ça dans des revues, il est pas loin de la psy, il connaît les physiciens, il connaît Fechner, par exemple, qui est un physicien, limite de l'interprétation des sensations, la sensation, les couleurs et tout ça, on sent que c'est scientifique si on veut. La perception des couleurs, le rôle du cerveau, ça viendra petit à petit, mais pour l'heure, on n'en est pas là. Voilà, tout ceci est... paraît mystérieux. Il y a toute une zone de mystère. Et alors, Cantor, avec ses nombres, la théorie des nombres, c'est le royaume du mystère. les transfinis sont déjà les géants, le gigantisme à l'œuvre, mais même dans la théorie des nombres usuels, par exemple, je parlais de la conjecture de Goldbach, pour lui, c'est un théorème, c'est une vérité, mais elle est mystérieuse parce que personne n'arrive à la démontrer. Et pourtant, c'est d'une simplicité, je dis en deux mots, tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers. Voilà, c'est ça la conjecture, et c'est vérifié, et Cantor s'amuse, ou la vérifie pour tous les nombres pairs jusqu'à 1000. Avec un tableau qu'il établit, et il vérifie que ce mystère, bon, ça marche. Mais personne ne sait pourquoi. Et de nos jours, on ne l'a toujours pas démontré. Elle est toujours conjecturale. Donc voilà ce type de problème. Et la théorie usuelle des nombres est riche de ce genre de questions. Non encore aujourd'hui, hein, il y en a encore plein à démontrer. Et ça, la curiosité naturelle de Cantor ne résiste pas devant ce type de questionnement. Alors après, pourquoi il s'intéresse aux sciences occultes de façon précise, à l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, bon, parce qu'il s'intéresse à la Kabbale, il s'intéresse aux Rose-Croix, parce que les Rose-Croix sont nées quelque part vers 1400, je ne sais quoi, Christian Rosenkreuz, voilà, la légende, tout ça a démarré en Allemagne, ça s'est répandu partout, et il voit une résurgence française. Donc tout d'un coup, il se dit, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Voilà. Et d'autant plus qu'il y a une composante scientifique chez ces Rose-Croix-là. Ils ont une interprétation de la science qui est dans un livre que je me suis efforcée de lire et qui réinterprète tous les grands résultats scientifiques de l'époque, mais en termes, comment dire, chez les pythagoriciens, nous avions déjà ceci, cela, et la science devient circulaire. Ce n'est plus une science basée sur l'expérience, c'est une science basée sur le mouvement perpétuel. Voilà. La circulation du sang, c'est la même chose que la circulation des étoiles dans le ciel. C'est ce qu'on appelle l'analogie occultiste. Voilà. Et Cantor est friand de ça. Il trouve ça très, très intéressant. Voilà. Le personnage.
Vous n'avez pas répondu à la question sur la langue. Donc
Les lettres. Les lettres sont toutes en allemand, avec des citations, quelquefois, beaucoup de citations latines, quelques mots de français, quelques phrases intercalées en français. Mais on n'a jamais les réponses. On n'a pas. Malheureusement, on n'a que les brouillons de Cantor en allemand, jamais les réponses de Charles Hermite, par exemple, parce qu'elle devait être dans la maison de Cantor, et à l'heure qu'il est, personne ne sait où elles sont passées, détruites ou disparues.
Bon.
Non, on répondait, il lisait le français, donc les interlocuteurs pouvaient répondre en français, sans problème. Voilà. Si c'est ça le sens, voilà.